Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante, Laetitia, Thierry, Églantine, Sébastien. Est-ce mes amis,
est,
bonjour.
On est bavard.
Bonjour Bernard.
Salut
bonjour
Bernard. Bernard, tout le temps.
Bonjour à tous.
Laetitia Dallet, avec vous une leçon de décothérapie avec un livre.
Décothérapie d'Emmanuela Sino et de mon ami Jean-Louis Serrato. C'est aux éditions Hachette Loisirs. Et ça, c'est un ouvrage pas tout à fait comme les autres, car il défend l'idée que la maison, c'est notre seconde peau. Oui. Une protection face à toutes les agressions que l'on peut rencontrer. Et c'est pas nouveau. À l'époque préhistorique, c'était déjà le cas. On se planquait dans la grotte pour se protéger de la pluie ou des affreux animaux qui voulaient nous dévorer. Et puis au fil des siècles, bien évidemment, la notion de confort n'a jamais cessé d'évoluer.
Oui, on est passé du caillou dans la grotte au banc en bois dans la chaumière.
Exactement, et on nous rappelle dans cet ouvrage que c'est fin 17e, sous Louis XIV, le roi soleil, qu'apparaissent les premiers sièges rembourrés, ainsi que les méridiennes, fauteuil idéal pour se prélasser.
J'adore ça, la méridienne, c'est indispensable. Il y a plein de choses dans ce livre, j'ai déjà le nez plongé dedans, mais il raconte l'histoire de l'évolution de la maison alors.
On apprend beaucoup de choses sur ce thème, mais c'est plutôt le constat qu'une maison dans laquelle on se sent bien renforce la confiance en soi.
Et dites, il y a beaucoup de conseils déco, là ?
Qui passent par consommer mieux pour vivre léger et heureux.
Ça me va.
On vous dit de favoriser une ambiance tranquille et sereine, donc autrement dit, jeter, donner, ne vous encombrez plus. Oui. Théorie à laquelle je crois dur comme fer. Alors attention, les auteurs nous expliquent quand même qu'il ne faut pas une maison parfaite et que c'est la faute de goût ou la petite pile un peu bazar là, qui va la rendre humaine.
C'est ce que disent mes ados en laissant ça jamais.
Mais sinon, comment arrive-t-on à créer une déco dans lequel on se sent vraiment, vraiment bien?
Et ben vous faites comme au boulot, vous analysez votre intérieur, vous réfléchissez à comment valoriser les points forts et améliorer les points faibles. Il y a des rappels évidents, comme ne pas choisir des meubles imposants pour une petite pièce et à l'inverse, ne pas disposer les petits meubles dans un grand loft. Il ne faut en fait ni surcharger, ni laisser trop de vide, parce que vous aurez un sentiment de flottement qui rendra la pièce inconfortable.
Des astuces pour agrandir une pièce?
Oui, des astuces visuelles. Par exemple, vous peignez le haut du mur sur 20 cm de la même couleur que le plafond. Et après, vous faites le reste du mur dans une teinte légèrement plus foncée et là ça agrandit. Voilà. Pour la cuisine aussi, il vous dit de privilégier des chaises avec accoudoir autour de la table parce qu'on se détend mieux.
C'est
dans ce
exact.
Genre de chaise. Et alors mon tuyau préféré, dans la douche, vous décalez la platine des robinets par rapport à la tête de douche.
Oui.
Vous savez que généralement les robinets ils sont juste en dessous
absolument.
Du plafond.
Et ça change quoi alors?
Bah, résultat, on se mouille systématiquement le bras quand on
ouvre. Je fais ça à toute vitesse tout le temps.
Donc si vous les décalez, vous n'allez plus vous mouiller. Se simplifier le quotidien, c'est tout simple.
Écoutez, j'ai juste eu 3 minutes pour le feuilleter.
Mais
il a l'air
très
géant.
Bien,
c'est vrai, oui.
Décothérapie, Emmanuela Sino, Jean-Louis Serrato, édition Hachette Loisirs, 25 euros. Ma foi, c'est un bel investissement. Thierry Denis, que fait-on pour avoir de bonnes salades au potager?
Bernard, le premier secret, c'est d'en semer très peu à la fois, mais souvent. Les salades semées arrivent à maturité en même temps. Elles s'abîment vite ensuite si vous ne les récoltez pas. Donc, si vous semez dès le printemps, tous les 15 jours, vous aurez un bon roulement, jamais trop de salades à la fois. Ne pas oublier, on récolte en général un mois et demi à deux mois après le semis.
Et ça sème comment, Thierry? C'est bête comme question, mais je ne l'ai jamais fait.
Et ben c'est bête comme tout à faire. Dans un sillon d'un centimètre de profondeur, je mets des petites graines. Après, je tasse bien avec le dos de mon râteau, un petit coup d'eau. La germination est rapide, moins de 8 jours. Dès que je peux manipuler les bébés salades, je les enlève de la terre, je les repique en rang.
D'accord.
En laissant de 25 à 35 cm entre chaque...
D'accord. Et du coup, vous allez en semer tout l'été?
Bien sûr, bien sûr. Mais ça va être un petit peu plus compliqué.
Pourquoi? Pour des questions d'arrosage?
Oui, vous avez tout compris, Églantine. Et de chaleur. Dans une salade, il y a de bonnes vitamines et de bonnes fibres. Mais c'est quand même 95%
de flotte.
Voilà. Donc en été, il ne faudrait pas qu'il y ait de sécheresse et pas trop de soleil brûlant, surtout à l'étape du semis et du repiquage.
Bon,
sinon, la salade est stressée et monte vite à graines. C'est-à-dire que les feuilles vont devenir amères et il n'y aura plus qu'à en faire du compost.
Elle monte dans les tours.
Elle surchauffe.
Elle fait un burn-out.
Voilà. Certaines salades, Thierry, doivent être plus résistantes que d'autres.
Il y a des variétés qui pomment bien en été, sans monter, même dans le midi. Bon, bien sûr, il faut les arroser.
Faut les arroser. Alors, oui, c'est ça.
Parmi les laitues, il y en a une dont le nom est tout un programme. Qui ne monte pas. Qui ne monte pas. Voilà. Ça s'écrit avec un K.
Bon.
Je vous recommande aussi la laitue Augusta, particulièrement résistante à la montaison.
Moi, j'adore qu'il ne monte pas, hein, Thierry. Il y en a une que j'aime bien, tout bêtement aussi, c'est la Batavia. C'est super sympa, c'est croquant.
Qui est une sorte de laitue, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Alors, semez la kamikaze.
Kamikaze,
oui, je sais que c'est un drôle de nom pour une salade.
Oui, en effet.
Mais celle-ci est vraiment intrépide, elle est dodue, et puis surtout, elle résiste très bien à la chaleur.
Je voudrais savoir ce que c'est qu'une salade intrépide. Sérieux. sérieusement, vous en avez des petites pour mon balcon?
Oui, oui. Bien sûr, les petites laitues à couper, Glantine. Mmh. J'ai un petit faible pour la cressonnette marocaine. Oh là, alors, d'abord, elle pousse très bien, elle est délicieuse, et le goût, c'est intermédiaire entre la marche et la laitue.
Ah, bon, je
vous couperez les feuilles latérales au fur et à mesure de vos besoins.
Okay. Et vous avez apporté c'est un bouquin aussi sur les salades.
Oui, tout à fait, un petit livre dont le titre est tout simplement « Salade ». Alors, il est écrit par David Henrier. Et alors, David Henrier, c'est un authentique jardinier passionné et passionnant. Oui. Son livre apprend tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie des salades, oui, des incroyable. Plus connus, comme les laitues, bien sûr, au plus inattendu, comme le fameux Périllade de Nankin, qu'adore Sébastien.
C'est le shiso japonais, ça. Voilà.
Ah oui,
ouais, d'accord. Je savais même pas que c'était.
Vous savez que je ne me nourris que de salade et de yaourt, hein, ah, oui. Denis.
Mais c'est grâce à ça que vous avez cette ligne remarquable.
Absolument. Et c'est le secret de votre longévité, Bernard.
Ça se voit, Bernard.
J'ai un peu grandi vite.
Ça se voit, vous mangez de la salade.
Salade au pluriel de David Henrier aux éditions Ulmer, même pas 13 euros, ma foi. David Henrier, par ailleurs, il a un blog excellent, plaisir-jardin.com. Et là-dessus, il y a plein d'infos sur les plantes. Mais son petit livre, il est remarquablement bien fait. La suite de Maison Jardin Cuisine. Brocante, dans un instant, le village Popincourt à Paris avec Églantine. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus très bien ce que c'est.
Popincourt, c'est à Paris, ça, c'est
mais
un
oui,
quartier
mais
Paris,
est-ce que c'est un village d'antiquaires ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis, Braison le cochon, c'est la suite de l'opération Barbecue avec le camarade Sébastien. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante sur RTL.
Il est 9h45.
Maison, jardin, cuisine, brocante, suite et fin des opérations. D'abord avec vous, Églantine Émeillet, ce matin. Oui. Vous restez à Paris pour aller flâner dans un quartier qui semble être tout à fait, ma foi, à votre goût.
Alors, ce serait difficile qu'il ne le soit pas. Hein. Une petite place très calme, cernée de terrasses de café, des ruelles alentours tout aussi calmes, mais abritant quelques boutiques pleines de ces trésors que j'adore vous faire chiner chaque semaine. C'est le village Popincourt, dans le 11e arrondissement parisien.
Alors, Églantine, je suis désolé. Ça
le Morvandieu ne connaît pas.
Mais oui, jamais, jamais.
Mais voilà, vous êtes Morvandieu. Et à chaque fois que vous venez à Paris, vous pensez qu'à vous échapper dans les
jardins.
Jardin
des plantes.
Exactement,
pourtant,
ça vous apprendra.
Je suis certaine que vous adoreriez ce quartier. Cette place, c'est aussi l'ancien carré des brocanteurs du 11e.
Pourquoi vous dites ancien?
Ah, je dis ancien parce que le temps a passé et que de la dizaine de brocanteurs qui s'y trouvaient, il n'en reste désormais plus que 3.
Oh, c'est triste.
Le montant des loyers, la concurrence d'Internet sont passés par là. Mmh. Et pourtant, moi, je voudrais vraiment qu'on rende hommage à ces résistants qui valent vraiment le détour. Et qui portent des noms d'ailleurs aussi charmants que Belle Lurette, à la Cinglingue, un seul mot, ou encore Trolleypus.
Oh là, les noms, c'est génial. Le quartier, oui, il faut en parler, il faut les sauver.
Oui, vraiment. Ce lieu, c'était il y a longtemps un quartier artisanal et ouvrier, et il a conservé une partie de son âme. Quand les brocanteurs se sont installés, ils avaient dans l'idée, en fait, de proposer une très jolie alternative aux puces de Saint-Ouen. C'est vrai que c'est pas si loin.
Oui.
En restant, eux, ouverts toute la semaine. L'idée, c'était on chine dans le petit village Popincourt en semaine et dans le gigantesque marché Saint-Ouen le week-end. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, mais quand même, il faut y aller.
Mais alors, moi, vous m'avez appris un truc, je ne savais pas du tout. Alors, quel est le programme? Dites-moi.
Alors, prenez la boutique à la Cinglingue, par exemple. Cette petite boutique charmante propose une très large gamme d'objets et de meubles, tous des années 50-60. Mmh. Et donc, à des tailles adaptées à nos petites surfaces parisiennes. La
très
mise
bon
en
point.
Scène, c'est très important. C'est des petits meubles. La mise en scène est soignée, colorée. L'accueil est à la hauteur.
Et si j'y vais, je pourrais demander des conseils?
Alors, moi, je suis tombée sur une brocanteuse. Ils sont trois, ils tournent. Hein. Une brocanteuse absolument charmante. Elle ne demande pas mieux. Mmh. Elle est là pour vous. J'apprécie aussi beaucoup, de l'autre côté, les nombreux meubles de métier, beaucoup plus imposants en taille, qu'on trouve à la Belle Lurette et chez Trolleypus. Alors, ces deux noms, en fait, sont associés dans un grand espace où s'entremêlent différents univers. On est dans le 19e et le 20e siècle. Alors, vous avez d'un côté du linge ancien, des volets de bois, des casiers en fil de fer, et puis de l'autre des meubles immenses venant de boutiques d'épiciers, de merceries, mais aussi des meubles de style Napoléon III, et tout ça avec plein d'objets partout. Les brocanteurs de ce lieu sont aussi restaurateurs, et je pense qu'ils chinent en permanence, parce que j'ai beau y passer régulièrement depuis 3 mois, je ne retrouve jamais les mêmes objets. Le stock est renouvelé tout le temps.
Nous sommes convaincus.
Ah oui,
oui, en plus, vous allez chiner et puis vous vous installez sur la place, c'est très calme, mais là vous déjeunez tranquillement,
ça,
c'est très sympathique.
Tout ça, c'est rue du marché Popincourt, dans
exactement.
Le 11e arrondissement de Paris.
Il faut
et on va y
préserver.
Foncer ventre à terre.
C'est
Sébastien Demorand, votre barbecue de compétition est encore chaud bouillant depuis les tendrons de veau d'hier, à peine le temps d'étouiller la grille, et on remet le couvert ce dimanche matin. Quel est le menu?
Eh bien, je vous ai expliqué hier, Bernard, vous vous en souvenez certainement, que les tendrons de veau n'étaient pas loin de la poitrine. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de passer à une autre poitrine que j'adore, qui est géniale à cuire à la braise, c'est la poitrine de cochon.
De gorée.
Voilà.
Avec Sébastien, le cochon n'est jamais loin.
Ah non, mais c'est fabuleux. Non, mais attendez, c'est économique et c'est délicieux, ouais, que demande le peuple. Bon. Et accessoirement, la poitrine de cochon, c'est un morceau qui supporte bien une cuisson maîtrisée à la braise et qui implique donc que l'on soit réellement au fourneau.
Je vous ai dit, c'est de la vraie cuisine. Alors. Oh,
exactement.
C'est pas du barbecue.
Je dis hier, oui, on va pas juste cramer des merguez, les enfants. Le barbecue, on peut s'en servir comme d'un véritable four en jouant par exemple du couvercle, des températures, de la fumaison, tout en étant au vert, en plein air, avec un verre de rosé. Donc voilà, on est tous aux anges.
Je vous regarderai faire avec le verre.
Il faut vous calmer quand même, Sébastien. Quoi? Laissez-nous d'abord avoir la recette.
La recette fastoche chez Monsieur le Boucher, un bon morceau épais entier de poitrine de cochon églantine, 500-600 grammes à peu près pour 4 personnes. Si vous êtes nombreux, vous faites la multiplication. Et vous allez demander au boucher de retirer très délicatement la couenne, hein, tout en gardant le plus de gras possible. C'est important. Ouais. Parce que ce gras va à la fois nourrir la viande et la protéger si par hasard votre braise était un peu trop forte. J'insiste une fois encore.
Pas de flamme.
Pas de flamme pour cette recette. Juste une braise solide et descendante, comme on dit. Allez, on fait de la braise pour tenir une heure à tout casser.
Une heure pour une heure devant le...
Au total, le temps de préparer la marinade.
Mais avant, tel que je vous connais, Sébastien, vous allez la faire mariner et pas mariner n'importe comment.
Exactement, sinon ce ne serait pas drôle, Thierry, on est d'accord. La liste des courses, elle est carrément simple. Une cuillère à soupe rase...
C'est pas comme le veau, non. C'est une autre marinade.
Bah oui, attendez, je peux vous faire la même recette avec une viande différente.
D'accord.
Je rêve, il est fou,
enfin,
lui.
Enfin, Bernard.
Allez, on reprend. Une cuillère à soupe rase de 5 épices, okay. Qui est, je vous rappelle, le mélange chinois à base de poivre de Sichuan, de cannelle, de fenouil, de girofle et d'anis étoilé.
Ouais. Ok.
6 cuillères à soupe de sirop d'érable, 3 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et tout ça mélangé soigneusement ensemble.
Vous allez pimenter quand même un peu.
Ah oui, alors on va pimenter, mais pas à Espelette pour une fois, Thierry.
Ah.
On va prendre de la bonne purée de piment bien forte. J'adore la sauce sriracha asiatique.
Ah,
vous savez, avec le coq sur la bouteille. Là, voilà.
Tout le monde
elle a un peu d'ail, celle-là.
Voilà, il faut justement qu'il y ait un peu d'ail, Thierry, parce que c'est ça ce qui donne du goût.
Non, ça arrache trop, ça, c'est trop fort.
Mais écoute, vous dosez en fonction de votre goût pour que ça arrache plus ou moins. Vous rigolez, qu'est-ce que c'est que cette expression, ça arrache pas du tout. Ça parfume. Bon, toute cette marinade, donc on va la badigeonner sur la poitrine de cochon, repos pendant quoi une heure, tout casser. Oui. Et ensuite, donc, il n'y a plus qu'à cuire en retournant régulièrement la viande sur le grill, on la promène sur la braise et on ferme régulièrement le couvercle pour que ça cuise à cœur et on laque la viande au fur et à mesure au pinceau avec le reste de la marinade en 20 minutes maximum, c'est cuit. Vous n'oubliez pas, c'est très important, en fin de cuisson, de laisser reposer la poitrine une bonne dizaine de minutes dans du papier aluminium.
Comme on fait pour un rôti.
Absolument. Et quand vous êtes prêt à servir, là, Thierry, vous découpez des gros morceaux bien généreux, un tout petit coup de fleur de sel et une petite salade verte toute simple. Votre cressonnette marocaine.
Ah, pour une fois, vous êtes raisonnable, c'est bien.
Ah, juste un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre de suite. Et c'est dimanche, on ne va pas trop se prendre la tête non plus.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
Mais le résultat est garanti. Ça.
Ah oui, alors, ça surfacture les enfants.
Je suis sûr de mon coup et de celui de Sébastien.
Merci Sébastien.
Tout le plaisir pour moi.
Je vous souhaite une très bonne semaine.
Ah oui, là, oui.
Vous aussi,
en ce début d'été, que je vous souhaite excellent d'ores et déjà.
À la semaine prochaine.
Salut.